La chronique d'aujourd'hui s'intitule La tempête apaisée. Je commence par citer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Il s'agit de la traduction de Louis II. Donc, il dort. C'est la panique à bord, les disciples sont certains que leur dernière heure est arrivée et qu'ils vont mourir tous noyés. La tempête sévit, la mer se déchaîne, le ciel se zèbre d'éclairs, les bourrasques menacent de faire chavirer l'embarcation et lui, il dort, comme si de rien n'était. Et de fait, ces violents fracas l'importunent si peu qu'ils doivent le réveiller. « Sauve-nous, nous allons tous y laisser notre peau. Pitié, fais quelque chose. » Réveillé, Jésus s'inquiète-t-il ? Pas du tout. Il commence par leur demander le comble. « De quoi avez-vous peur ?»« Mais enfin, Rabbi, nous allons tous mourir. Regarde la vague de la taille d'un temple qui va s'écraser sur nous et la barque qui risque de démater. » « Gens de peu de foi, leur répond-il. Vous avez peur et pourtant, regardez, je dormais. » J'ai pleine confiance en vous. Je remets ma vie entre vos mains. Je sais que vous avez toute l'expérience de batelier nécessaire pour nous tirer d'affaire. Et combien même devrions-nous mourir ? N'avez-vous pas entendu la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ? Alors, que craignez-vous qu'il nous arrive ? Le Christ, se confiant aux hommes, indique qu'il n'y a pas d'autre voie possible pour l'homme. Il leur demande, croyez-vous en l'homme ? Croyez-vous en vous ? Quand bien même cette confiance peut être bafouée, meurtrie, pensons à Judas. D'ailleurs, ne nous en remettons-nous pas quotidiennement à des inconnus ? À commencer par le chauffeur de bus qui nous amène au travail, l'aiguilleur du ciel qui veille à ce qu'un avion ne s'écrase pas sur la ville, le médecin qui nous aura correctement ausculté, le technicien de la centrale nucléaire qui ne pensera pas trop à sa petite amie, et ainsi de suite. Être humain, c'est toujours être en situation de s'en remettre à autrui. Et ce qui fonde notre dignité, c'est la confiance qui nous est donnée en retour. Nous devrions vivre comme s'il nous revenait de veiller sur ce Dieu qui dort, confiant dans nos ressources et notre capacité à l'amener à bon port. Nous sommes tous des gardiens et des témoins d'humanité, et la seule mort à redouter, c'est bien la mort de ce qui nous rend humains. Non pas la mort biologique, toujours cruelle mais inévitable, consubstantielle à la vie. L'histoire ne manque pas d'exemples d'hommes et de femmes qui ont tragiquement manqué à leur humanité. Mais l'érosion la plus sournoise se fait à travers de petits effritements quotidiens qui, accumulés, forment une béance tragique. Alors comment l'éviter ? C'est une autre tourmente, intérieure celle-ci, qui nous apporte la réponse. Le Christ vient se retirer pour prier au mont des Oliviers. La scène est diamétralement opposée. Ici, pas de tempête, tout est calme, et la nuit doit être douce étant donné que les disciples s'endorment par trois fois alors que le Christ leur demande pourtant de veiller avec eux. Et soyez persuadés que votre chroniqueur se serait endormi avec eux. C'est à son tour de venir les réveiller, mais eux ne perçoivent rien de l'enjeu crucial qui se joue à cet instant. Ils ne se sentent pas directement physiquement menacés et ne voient donc pas la nécessité de veiller. Mais où est le danger, aura peut-être même dit l'un d'entre eux. Il dort en pleine tornade et nous demande maintenant de rester réveillés, à les comprendre. Pourtant, le Christ vit une heure d'angoisse épouvantable, doutant d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à la passion à venir. « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, » dit-on en Marc 14, 36. Cette scène se conclut, non sans ironie, par ces paroles adressées aux disciples de nouveau endormis. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Marc 14, 41. Ce qu'ils ne sont pas prêts de faire, les gardes arrivent et le plus dur est à venir, être des témoins persécutés de la parole. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Marc 14, 38. La faiblesse dont il est question dans ces dernières paroles que Jésus leur dit en quittant le mont des Oliviers n'est pas celle du corps, mais de la chair vue comme une pâte aisément pétrie d'habitude, de soumission à nos instincts les plus élémentaires, aux nécessités immédiates. Cette chair, comprise comme la somme de tout ce qui nous rend oublieux de nous-mêmes, sans compter les mille et une mauvaises raisons que notre société de la dispersion nous donne pour justifier nos manquements et nos lâchetés. Ce n'est malheureusement qu'une fois qu'un coup dur survient qu'on regrette de ne pas avoir veillé, de s'être ramolli et de ne pas pouvoir faire fond sur les forces de l'esprit. Ces forces de l'esprit, je serais bien en peine de les décrire, si ce n'est en creux, à partir des représentations que je me fais du lieu en moi qui les accueille. J'imagine une crypte au cœur de laquelle la lumière douce et dorée d'une bougie éclaire une icône, ou encore un cloître intérieur au centre duquel se trouve une fontaine d'eau vive. Je peux y déambuler avec mes pensées, mes sentiments, mes espérances les plus chères. Mais ce pourrait tout aussi bien être un jardin de curé dans lequel je cultive mes vertus chez l'imaginaire monacal. Un lieu de paix où règne tendresse, bienveillance et clairvoyance. Un lieu où je peux venir me recueillir. Veiller et prier, c'est prendre soin de ce havre de paix d'où jaillissent nos forces vives. En devenir familier, c'est le préserver et le fortifier, et en faire ainsi une retraite possible ou venir puiser l'énergie pour faire face aux tourments qui nous assaillent. Mais veiller et prier, ce n'est pas seulement se préparer à affronter une épreuve, c'est apprendre à entretenir une relation vivifiante avec la vie et devenir de plus en plus attentif et présent à notre quotidien. Pour reprendre les mots de Bernanos, la prière, ce n'est pas le dialogue d'un maniaque avec son ombre, mais le dialogue d'un homme avec ce qu'il a de plus profond, peut-on lire dans le journal d'un curé de campagne. Cette conversation intime, nous pouvons la poursuivre à la suite de toutes les sentinelles qui se sont mises au service de la bonne nouvelle. Des hommes et des femmes conscients de leur précarité, la barque peut chavirer à tout moment, et pourtant rayonnant de gratitude pour cette vie donnée, au service de laquelle ils se sont mis. Les évangiles nous offrent une parole non pas pour transformer le réel, Dieu ne viendra pas faire taire la tempête, mais pour faire face à la réalité qui est la nôtre, dans des dispositions intérieures renouvelées. Et comme le disait si justement Théodore Monod, les évangiles n'ont pas encore été essayés. On parle beaucoup d'institutions religieuses, de prises de position politiques, comme autant de bonnes raisons d'aller butiner dans d'autres traditions, sans se donner la peine de revenir au texte des évangiles et de céder de l'expérience de tous ceux qui l'ont enluminé par leur vie, leur savoir, leur connaissance. Alors je vous invite à relire et à mettre en regard ces deux passages, la tempête apaisée et la prière au mont des Oliviers, et à les laisser infuser.